enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Nous allons prier, nous allons partager la parole de Dieu. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce qui est sur nous, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes de pouvoir comprendre ta parole. Tu nous donnes une entrée dans ta parole. Non pas pour notre intellect, mais pour nourrir, Seigneur, notre esprit, pour nourrir notre cœur. Seigneur, je te remercie. Merci de oindre ma bouche. Merci de faire passer ton message. Merci d'amener, Seigneur, chacun d'entre nous à se remettre en question par rapport aux visions que tu nous donnes, Seigneur. Oh Père, je te loue et je t'adore dans le nom précieux de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, on va parler vision. Et je vais vous montrer au travers de la vie de Joseph qui m'interpelle particulièrement ces derniers temps ce que Dieu nous appelle à réussir et comment réussir. Regardons ensemble d'abord dans Josué, parce que ça c'est quelque chose que nous devons bien comprendre dans notre vie personnelle. Dieu va donner des instructions à Josué. Et l'objectif de Dieu, c'était que Josué puisse réussir sa vie. Et sa mission, donc. Dans Josué chapitre 1, au verset 6, Dieu va lui dire: fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement fortifie-toi et bon courage, et en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite mon serviteur Moïse, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qu'il est écrit. C'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. On va lire le verset 8 et le verset 9 en Kirundi, s'il vous plaît.
Ibiri muri cyo gitabo cy'ibyagezwe ntuzubikure ko mu kanwa kawe ariko uze wame ubiririmbira mu kumurango no mu ijoro kugira ngo ubone kwitondera ibyanditswemo byose niho ibyawe bizogenda neza ukagira amahigwe none sije nkwibaririye ntishikama ushire amanga nuko ntutinye nturanduke umutima kuko jewe uhoraho Imana yawe ndi kumwe nawe aho uzoja hose.
Donc Dieu appelle son peuple à réussir. C'est un problème que l'on voit parmi beaucoup de chrétiens. Et une des meilleures illustrations que je peux vous donner, c'est l'histoire de Joseph. Mais d'abord, il faut bien comprendre cela. Dieu nous appelle à réussir notre vie. Chacun d'entre nous, Dieu nous donne des rêves. Pas forcément des rêves directement pendant que tu dors la nuit. C'est pas seulement cela. Quand on parle de rêve, ça veut dire que tu veux et tu désires accomplir quelque chose. Parce que dans ton cœur, il y a quelque chose de particulier. À partir du moment où nous recevons Christ comme sauveur personnel, obligatoirement, Dieu met des rêves en nous. Et tu peux peut-être les recevoir quand tu dors, mais pas seulement. Tu peux les recevoir alors que tu es dans l'adoration. Les recevoir alors que tu es en train de faire ton business de tous les jours. Mais il y a quelque chose qui te travaille. Ce qui te travaille, mon frère, ma soeur, c'est ta destinée. C'est-à-dire ce que Dieu veut que tu accomplisses dans ta vie personnellement. Et ça, tu dois le comprendre. Chacun d'entre nous, Dieu nous montre des choses dans notre vie spirituelle. C'est obligatoire. Chaque chrétien, comme il reçoit l'Esprit de Dieu en lui, il est donc sauvé, obligatoire. Obligatoirement, Dieu, au bout d'un moment, et très rapidement en général, dans sa vie spirituelle, va mettre des choses dans son cœur. Et ces choses vont venir et revenir et revenir. Ça, c'est la destinée à laquelle Dieu t'appelle. Alors, Joseph, on va lire à partir de Genèse 37. Joseph était un jeune homme qui avait d'ailleurs tout pour réussir dans le naturel. Et Joseph, à l'âge de 17 ans, il va recevoir un certain nombre de songes de la part du Seigneur. Et là, on va voir tout un processus à propos de notre destinée, parce qu'il va falloir que vous compreniez un certain nombre de principes de la parole de Dieu. Donc, on va lire à partir du verset 1, Genèse 37. Il est dit, Jacob habita dans le pays de Canaan, où son père avait séjourné. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le petit bétail avec ses frères, tout jeunes, garçons. Il était auprès des fils de Bila et les fils de Zilpa, femmes de son père. Or, Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait beaucoup Joseph, plus Israël, c'était Jacob bien sûr, plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique bigarrée, c'est-à-dire de différentes couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Alors en fait, on voit ici Joseph, fils de bonne famille. Fils de bonne famille. Une famille extrêmement riche. Une famille qui avait largement tout ce qu'il fallait. Abraham, nous dit la Bible, était très riche. Il en avait tellement en troupeau que ils ont été obligés de se séparer avec son neveu Lot parce qu'il y en avait partout. La Bible nous dit aussi qu'il était très riche en argent, en or. Il avait plein de serviteurs. Abraham était un homme hyper super riche. On pourrait dire peut-être aujourd'hui en équivalent, c'était un milliardaire américain. Et en fait, Abraham, eh bien, il va engendrer, nous le savons, Isaac. Et quand Abraham va mourir,
Abraham a fouillé,
eh bien, Isaac, le seul fils, va hériter de tout. Sachant qu'Ismaël n'a pas dû avoir grand chose. Mais on sait que Isaac va hériter de tout, d'une immense fortune. Et Isaac va transmettre aussi à Jacob, parce que Isaac va avoir deux enfants principaux, où il va transférer la plupart de ses biens à Jacob. Donc nous savons que Jacob était quelqu'un d'immensément riche. C'était quelqu'un qui était très bien dans la vie. Donc Joseph venait d'une très bonne famille. Il avait tout pour réussir, pour continuer dans les promesses de Dieu. Et sur cette famille, il y avait vraiment des promesses très particulières. Le grand-père de Jacob, donc Abraham avait reçu les immenses promesses qu'au travers de sa postérité, il y aurait un peuple. Il avait une double promesse, nous le savons, terrestre et céleste. Terrestre, le peuple d'Israël, céleste, l'Église de Dieu. Joseph était en plus de la grande famille bien riche dans laquelle il était né. Il était le préféré de son papa. Donc il a eu beaucoup d'affection de son père. Donc tout allait très bien. Bon, il y avait des problèmes de famille quand même. Il y avait des problèmes de jalousie entre les enfants. Normal, la polygamie amène toujours du bazar dans les familles. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, la Bible est claire là-dessus. Mais il faut dire, à cette époque-là, la polygamie apportait des histoires épouvantables dans les familles. Si vous regardez l'histoire de David et de ses enfants, de ses différentes femmes, c'était une catastrophe. C'était rébellion contre après rébellion. Ça, c'est un autre sujet. Mais là, on voit que le seul problème, c'était quand même un problème familial que Joseph pouvait rencontrer. À 17 ans, on est encore un gamin, disons. C'est clair qu'on n'est pas établi dans la vie. Dieu va parler à Joseph. Et il va faire deux rêves. On va lire ça. À partir du verset 5, Joseph fit un rêve, le rapporta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce rêve que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs, à lier des gerbes. Et voici que ma gerbe se dressait et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu prétends régner sur nous, à moins que tu ne prétendes être notre maître? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit, voici que j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il raconta à son père et ses frères. Son père le gronda et lui dit, que signifie ce rêve? Que tu as fait? Prétends-tu que nous deviendrons ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident. Donc là, on voit encore en plus. Dieu va appeler Joseph à quelque chose de spécial. Il va lui donner deux rêves. Parce que peut-être que s'il lui avait donné un seul rêve, peut-être que Joseph aurait pu dire oui, c'est bien, j'ai rêvé ça. Mais je ne comprends pas très bien. Et Dieu va confirmer. Vous savez, quand Dieu nous parle sur notre destinée, il ne nous parle pas une seule fois. Il va te parler, te reparler. Tu vas te voir faire certaines choses qui sont des choses prophétiques. Ce sont des choses prophétiques. Ça veut dire des choses que Dieu a pour toi qui devront s'accomplir dans le futur. Ce sont des choses que des fois tu as l'impression d'avoir faites alors que tu ne les as jamais faites. Ce sont des choses dont tu rêves alors que finalement tu ne cherches pas ces choses-là. Je ne parle pas des gens qui essayent de se fabriquer eux-mêmes des histoires. Je parle des choses que le Seigneur nous transmet. Ça s'appelle des révélations. Vous savez, le mot révélation, on en a fait quelque chose de super mystique. Mais c'est pas mystique les révélations. Tu peux très bien recevoir des révélations de ta destinée dans différents moments de ta vie. Ça ne sera pas forcément une vision ou quelqu'un qui est là qui d'un seul coup pointe son doigt vers toi en disant le Seigneur va faire de toi un prophète des nations. Combien j'ai entendu ce genre de trucs qui sont la plupart du temps faux, malheureusement. Non, Dieu va te parler parce que l'Esprit de Dieu est en toi et le Seigneur va mettre des choses en toi. Et Joseph était jeune, 17 ans. Dieu va l'appeler à devenir quoi? Un grand leader, un immense leader. Voilà ce que Dieu est en train d'implanter dans Joseph. Mais sachez une chose, vous pouvez recevoir et reconnaître ce que Dieu a pour vous en tant que destinée, mais cela ne va pas se réaliser automatiquement. Il faut que vous sachiez qu'à partir du moment où il y a des promesses de Dieu sur vos vies, elles sont conditionnelles. Et ça, c'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Beaucoup de gens pensent que parce qu'ils ont reçu des promesses, ça va s'accomplir automatiquement tout seul. Et finalement, ils n'ont rien à faire si ce n'est d'attendre l'accomplissement d'une promesse. Il y en a d'autres, à contrario, ils vont complètement à l'opposé et ils essayent par eux-mêmes de réaliser par la chair les promesses que Dieu leur a faites. Et alors, ils se plantent. Et comme ils se plantent, ils arrivent à un certain moment de leur vie où ça devient une catastrophe parce qu'ils se sont mis dans de telles choses. S'ils ne se rétractent pas au bout d'un certain temps, le temps va passer et ils vont être enterrés avec leur vision. Ici, Joseph reçoit une vision. Mais sachez une chose, à partir du moment où Dieu vous parle, où Dieu vous montre quelque chose, Dieu vous donne une vision pour réaliser quelque chose, il y a une machine qui va se mettre en route. C'est une machine diabolique qui va essayer absolument par tous les moyens de ne pas vous faire entrer dans votre destinée. Et ça, vous devez le savoir. Ça veut dire qu'il va y avoir un certain nombre d'événements, un certain nombre de pierres d'achoppement, un certain nombre de choix devant lesquels vous allez être placés. Et si vous réagissez mal, alors vous risquez soit de retarder ce que Dieu a prévu pour vous,
iteba,
ou soit carrément vous risquez de l'annuler. Et ça, c'est un problème que beaucoup de chrétiens rencontrent. C'est pour ça que je veux que vous compreniez un certain nombre de choses. Joseph, étant d'une bonne famille, pouvait se dire, bon, bah, finalement, apparemment Dieu va me placer au-dessus de tout le monde dans ma famille. Pourtant, je ne suis pas l'aîné. C'était Ruben l'aîné. L'aîné, c'était Ruben, et normalement, dans les familles, dans la culture ici, l'aîné récupérait quasiment tout. C'était lui qui prenait la succession de la famille. C'est connu, c'est encore dans un certain nombre de cultures aujourd'hui dans le monde. Et là, Joseph commence à réaliser une chose. Il se dit, mais finalement, c'est moi qui vais prendre le leadership de la famille. Donc, il sentait que Dieu l'appelait en tant que leader. Il ne s'imaginait pas. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez. La façon dont Dieu allait faire. Mais ce qu'il ne savait pas encore plus,
hein,
et ce que nous ne savons pas en général, c'est que Dieu va être d'abord obligé de travailler en nous avant de pouvoir accomplir ce qu'il veut faire au travers de nous. Donc Dieu va travailler en nous avant de pouvoir accomplir les choses qu'il veut faire au travers de nous. Et ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Le travail que Dieu devra opérer en toi. Parce que si Dieu te mettait dans la vision qu'il t'a donnée, aujourd'hui, tu casserais tout. Tu ne pourrais pas contenir ce que le Seigneur veut faire au travers de toi. Parce que tu n'es pas prêt. Et Joseph n'était pas prêt. Dieu allait lui donner un leadership extraordinaire qu'il allait lui-même accomplir. Et en fait, au travers de cela, c'était une des façons par lesquelles Dieu allait pouvoir mettre son peuple à l'abri dans le territoire d'Égypte. Donc la machine diabolique va commencer à se mettre en route. Dans la vie de Joseph. Tous ses frères sont partis s'occuper du bétail. Et son père a le malheur d'envoyer donc Joseph pour aller voir donc leurs frères, comment ils se portent, etc.
etc.
Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ses frères vont le voir arriver de loin. Et ils vont comploter. Et ils vont comploter quelque chose de vraiment extrêmement mauvais. À tel point que pour raccourcir l'histoire, vous pourrez lire la suite de Genèse 37. Ils avaient prévu plus ou moins de le tuer, donc de l'éliminer. Et Dieu va empêcher cela. Mais Joseph va se retrouver aspiré par une machine diabolique. Et parfois, c'est ce qui se passe dans nos vies. En dépit des circonstances, certaines personnes commencent à travailler contre nous. Et au début, on ne le réalise pas. Mais comme il y a des pressions, parce que sachez une chose, vous n'accomplirez jamais ce que Dieu a pour vous sans subir des pressions. Ça, c'est quelque chose qui est obligatoire. Vous ne verrez personne qui vous dira, oui, le Seigneur m'a amené dans telle et telle vision. Le Seigneur m'avait parlé. Voilà ce qu'il a fait au travers de moi. Et ça s'est passé tout seul. Tout le monde vous dira, tu sais, quand j'ai commencé, je peux te dire une chose, tout le monde était contre moi. Personne n'a voulu me croire. Personne, quand j'ai partagé ce que j'avais dans mon cœur, les gens m'ont pris pour un fou. J'ai eu mille et une oppositions. Je me souviens un jour, il y avait le témoignage d'un missionnaire qui travaillait en Amérique du Sud. Le Seigneur l'avait envoyé. Et cet homme, pendant 7 ans, et il avait un appel, il savait que Dieu le voulait là. Pendant 7 ans, il a bossé. Et il avait une église où il y avait juste toute sa famille et je crois une ou deux personnes en plus. Il y a de quoi jeter l'éponge et dire ça suffit maintenant. Et d'un seul coup, le réveil a éclaté. Un homme qui a servi le Seigneur de façon efficace. Mais il y a des oppositions. Et là, la première opposition à laquelle donc, Joseph a dû faire face, c'était son entourage. Sachez une chose, votre entourage ne vous fera pas de cadeau à partir du moment où vous voulez accomplir une vision divine. Cet entourage ne sera pas gentil avec vous. Il ne vous aidera pas la plupart du temps. Je ne dis pas tout le temps, mais la plupart du temps, il y aura de l'opposition, constante. Et ici, c'était ses frères. Ses frères voulaient l'éliminer par jalousie, par méchanceté. C'est vrai que Jacob n'avait pas très bien joué en faisant un petit préféré dans la famille. Il avait attisé le feu, mais c'est pas la raison principale pour laquelle ses frères voulaient éliminer donc Joseph. La raison principale, c'est qu'il y avait des présences diaboliques qui essayaient absolument de travailler au travers de la chair de ses frères pour éliminer un homme qui avait un appel immense sur sa vie. Donc Joseph va se retrouver dans un trou, dans un puits, et vendu comme esclave. Et là, croyez-moi, quand vous avez une grande vision et que vous êtes dans le trou, eh bien, vous avez en général envie de faire une chose, de dire: Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas toi qui m'as parlé? Tu m'as parlé que c'est moi qui vais devenir un grand leader sur ma famille, entre autres, et je me retrouve là vendu comme un esclave. Joseph, son arrière-plan naturel ne l'a pas aidé du tout. L'arrière-plan de Joseph ne l'a absolument pas du tout aidé pour arriver là où Dieu voulait qu'il arrive.
Et
je vais vous dire une chose. Nous sommes dans un pays où les gens font une chose. Ils essayent de regarder qui est le cousin, qui est le papa, qui est le frère, qui est la sœur, qui est ceci, qui est cela. Pourquoi? Parce qu'on marche par relation pour avoir de la promotion.
Et
si tu marches par relation pour avoir de la promotion,
oui, tu marches dans le naturel.
Mais sache une chose, un jour peut-être que la tempête soufflera sur ton naturel. Et quand tu t'es confié dans le naturel et que tu as eu des promotions dans le naturel parce que tu as eu des relations, et bien sache une chose, du jour au lendemain, si ça se casse la figure, tu ne seras plus rien. C'est pourquoi l'Église doit être exhortée à utiliser les principes divins. Si tu construis ta vie sur des principes divins, alors c'est là où tu auras du succès. C'est ce que nous avons lu au début avec l'histoire de Josué. Josué a eu du succès parce qu'il a écouté l'exhortation divine qui était de construire sur la parole de Dieu, non pas de construire sur des choses humaines, des principes humains. Il est bon d'avoir des relations, mais si ces relations sont uniquement la partie de ta foi entre naturelles, alors tu te trompes toi-même. Dieu ne veut pas que tu t'appuies sur le naturel. Dieu ne peut pas te donner une promotion divine où il va intervenir surnaturellement alors que tu t'appuies sur la chair. La Bible est claire. Nous avons lu ces versets-là, je crois, la semaine dernière dans Jérémie. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel. Ne prends pas appui sur la chair. Si tu as une vision, moi j'ai vu des gens faire ça. Et c'est des gens qui veulent réaliser la vision par la chair. Ils cherchent des contacts, ils cherchent à avoir ce qu'il faut pour monter ce qu'ils pensent que Dieu leur a dit. Et un certain nombre d'entre eux, c'est vrai, Dieu leur a parlé. Mais quand ils font ça, quelques années plus tard, vous vous apercevez que toi, ils se sont complètement écartés du Seigneur. Vous savez, il n'y a pas de secret, frère. Il y a des choses qui sont très simples. Ce que nous semons aujourd'hui, nous allons le récolter demain. Si tu sèmes aujourd'hui pour la chair, la Bible dit que tu vas récolter pour la corruption, c'est-à-dire pour la destruction. Dieu ne pourra jamais accomplir des choses au travers de toi si tu penses que tu vas tout faire par relation dans le naturel. Joseph Joseph ici ne va pas pouvoir faire quoi que ce soit par le naturel parce que Dieu l'a coupé complètement. Et Dieu va utiliser ces circonstances pour former Joseph. Il y a quelque chose qu'il faut vous sachiez. Si vous voulez voir Dieu agir, il va falloir que Dieu puisse travailler en vous. Et il y a une école que nous n'aimons pas. Ça s'appelle l'école de la souffrance. Ça, les chrétiens n'aiment pas trop cela. On peut parler de bénédiction, bénédiction. Les gens sont là, ils sont là en train d'applaudir. Et c'est bien, il faut prêcher la bénédiction. C'est quelque chose qui est important. Mais par contre, les gens n'aiment pas du tout quand on commence à leur dire il faudra payer un prix. Il faudra renoncer à certaines choses. Il faudra souffrir. Il y a des gens qui se mettront contre vous. Il y a des gens qui essaieront de vous détruire parfois. De détruire ce que vous faites. D'essayer de prendre le contrôle de ce que vous faites. De faire telle ou telle ou telle chose. Ça, les gens n'aiment pas entendre ces choses-là. Parce que ça, nous savons que ça annonce des jours qui seront mauvais. Des jours de souffrance. Des jours où la vision s'en verra être quasiment éteinte. Lorsque Joseph a été vendu par ses frères, ils l'ont mis dans une citerne au départ. Et à ce moment-là, il y avait des gens qui faisaient des marchands ambulants qui étaient là. Et ils l'ont vendu. On appelle les Madianites. Et en fait, quand Joseph a été vendu, on peut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Tous ces repères ont été mis en l'air. Il y a des fois où tous nos repères peuvent être brisés. Tous les repères que tu avais dans ta vie d'un seul coup tombent par terre. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça, c'est une question. Souvent, les gens font un mauvais choix alors que leurs repères tout autour, toutes les fondations de leur vie s'écroulent. La chose qu'ils font, c'est qu'ils rétrogradent. Et là, le diable a marqué un grand point dans leur... Alors que tu rétrogrades, ta vision va être retardée. Quand quelqu'un rétrograde dans sa vie spirituelle, sa vie est retardée. Et le plan de Dieu pour sa vie est retardé. Il perd toutes les années où il est dans le désert à être loin du Seigneur. Sachant que le Seigneur n'est pas le Dieu de la première chance seulement, de la deuxième, de la troisième, de la huitième chance. Dieu est capable de te restaurer, mais sache une chose, il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est te faire récupérer le temps que tu as perdu. Il peut te restaurer et te faire redémarrer dans ta destinée, mais les années que tu as perdues, tu les as perdues. Moïse, s'il avait été obéissant au premier plan, il n'aurait pas perdu 40 ans. Et souvent, c'est ce que nous ne réalisons pas. Nous ne réalisons pas que le fait de mal réagir, alors que d'un seul coup nous rencontrons des obstacles à ce que Dieu nous a montré, ça va nous amener à faire une chose, à perdre du temps. Là où tu prends la mauvaise décision, la Bible ne dit rien sur Joseph. Pas un mot. Nous ne savons pas comment il a réagi directement, en tout cas apparemment. Mais il est clair que quand nous le retrouvons dans la maison de Potiphar, au chapitre 39, nous allons retrouver Joseph. La Bible fait une parenthèse sur Judas, le fils de Jacob, qui va sérieusement se compromettre. Mais au chapitre 39, nous retrouvons Joseph. Joseph donc est amené par les Madianites jusqu'en Égypte. Donc il y a eu des centaines de kilomètres qui ont été parcourus. Joseph dit bye bye à son arrière-plan. Il va commencer une vie nouvelle et il se doute que cette vie nouvelle ne sera pas une partie de plaisir. Mais je vais te dire une chose, si tu veux simplement voir les choses facilement et avoir que des choses faciles à faire sans en payer un prix, tu ne feras rien dans ta vie. Il y a toujours un prix, je vous le dis et je vous répète, à payer pour accomplir une vision, une destinée.
baronse hari ikiguzi.
Et beaucoup de gens ne veulent pas payer ce prix.
Abantu benshi ntibashaka rero kuriha.
Mais Joseph était prêt à payer ce prix.
Ariko Yosefu yari yiteguye.
Et c'est ce qu'il va faire.
Nicyo yakoze.
Il va faire les bons choix.
Yahisemo neza.
Au chapitre 39, Joseph se retrouve
Yosefu yasanze
dans la maison de quelqu'un qui l'a acheté.
Mu nzu y'umuntu yamuguze.
Lui Joseph,
oui Yosefu,
qui était fils d'un prince,
umuhungu w'umuganwa,
de quelqu'un de super important,
umuntu ahambaye cyane mu gihugu,
il se retrouve à nettoyer par terre,
asanga ariko arakoropa,
il se retrouve comme esclave,
asanga ari umugurano,
même pas comme travailleur, comme
atari
esclave,
umukozi asanzwe ariko umugurano,
comme quelqu'un qui n'a plus rien,
umuntu atacyafise,
n'a plus de droit,
ataburenganzira
n'amafise, à un maître,
aganzwa n'umuganza, kandi
peut décider d'ailleurs,
uyo mugenzi mbere,
la vie ou la mort,
uyo muganza ashobora guhitamo kumwica cyangwa kumuhunga,
en Égypte c'était le cas,
muri Egypte nuko byakoreka.
L'esclave n'avait absolument aucun droit. Le maître avait le droit de vie et de mort sur l'esclave. Donc Joseph se retrouve dans une situation dangereuse. Mais cet homme aimait Dieu. Ce jeune homme aimait Dieu. Et il va comprendre l'école de la souffrance. L'école des fausses accusations. L'école des trahisons. Parce que sachez une chose. Si vous voulez accomplir des choses pour Dieu, il y aura des fausses accusations. Il y aura des trahisons. Il y aura toutes sortes de choses qu'on
fera.
Et vous en aurez beaucoup plus que quelqu'un qui ne fait rien pour le Seigneur. Je vous dis, les gens n'aiment pas entendre ce genre de message. Moi, quand je parle avec des pasteurs ou quand j'enseigne sur l'église locale, je le dis toujours à ceux qui veulent servir le Seigneur. Je leur dis, préparez, vous allez souffrir. Et ça, on n'aime pas entendre ça. Parce que faire ce que le Seigneur nous demande de faire va impliquer de la souffrance.
Ça
va impliquer un certain nombre de choses qu'on n'aime pas forcément. Et à la limite, on se dit, je m'en passerai bien. Et regardez Joseph. Là, c'est quelque chose qui est super. Et c'est quelque chose qu'il faut que vous appreniez. Verset 1 du chapitre 39. On fit descendre Joseph en Égypte. Et l'Égyptien Potiphar, chambellan du Pharaon, commandant des gardes, lâche aux Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph et celui-ci réussissait à tous égards. Il était dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Joseph obtint la faveur de son maître dont il assurait le service et il l'avait établi comme intendant sur sa maison en remettant entre ses mains tout ce qui lui appartenait. Dès que Potiphar lui établit comme intendant sur sa maison et sur tout ce qui lui appartenait, l'Éternel bénit la maison d'Égyptien à cause de Joseph et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tout ce qui lui appartenait, aussi bien dans la maison qu'au champ. Il abandonna de Joseph tout ce qui lui appartenait avec lui et il ne s'occupait plus de rien sinon de la nourriture qu'il mangeait. Or Joseph était d'une très grande beauté. On peut lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 6 s'il vous plaît.
Uhora abana na Yosefu bituma roranigwa aba mu rugo rwa Shebuja umunyegiputa. Shebuja abona yuko Uhora ari kumwe nawe kandi ko Uhora yamuhaye kugira ikiganza cyiza kucakoze cyose. Yosefu atona kuri we aba ingendanyi yiwe maze amuhindura umubwiriza wo mu rugo rwiwe amuzeze byafise byose. Maze uhereye igihe yamubwize mubwirizwa mu rugo rwiwe rwose akamuzeze byafise byose Uhora hacaha umugisha urugo rw'umwo munyegiputa ku bwa Yosefu. Umugisha uhoraho ubakubye yari afise byose byo mu rugo n'ibyo mu ndimiro. Yegurira Yosefu ibyo yari afise byose, ntiyagira ikindi yibaza atari ibyo kurya, kandi Yosefu yari mwiza w'umunyakaranga.
Là il y a un grand secret. Au milieu de l'adversité, alors que tout semble s'opposer à ce que Dieu a pour votre destinée, c'est là où il va falloir réagir. Et la réaction de Joseph, quand je parle de réagir, n'était pas comme la plupart des hommes, des chrétiens, qui sont dans des moments difficiles. La plupart des chrétiens, quand ils se retrouvent dans des oppositions, ils gémissent et font la prière de plainte. Seigneur, pourquoi ça m'arrive à moi? Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets ça? Seigneur, pourquoi celui-ci m'a trahi? Seigneur, pourquoi j'ai tout perdu ici? Seigneur, pourquoi ceci? Seigneur, pourquoi cela? Et ça, c'est une prière qu'il faut bannir de nos vies. C'est une prière qui est extrêmement dangereuse. Tu fais ça? Je vais te dire une chose. Tu permets à l'ennemi de continuer à travailler en toi. De montrer que finalement, c'est Satan qui prédomine dans ta vie.
Et que Dieu est petit.
Et c'est ce que tu es en train de faire.
Tu minimises
la puissance de Dieu.
Et
malheureusement, tu es en train de maximiser la puissance du diable dans ta vie. Et le diable est un destructeur. Le diable est un menteur. Le diable est un voleur. Donc il essaiera obligatoirement de continuer à s'infiltrer dans ta vie parce que il a commencé à envoyer de l'adversité. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu l'appuies pour qu'il continue à détruire ta vie. Le diable ne vous fera pas de cadeau, frères et
sœurs.
Le diable est un destructeur. Il est méchant. Et s'il voit que quelqu'un a un appel de Dieu sur sa vie, il essaiera par tous les moyens de le détruire. Il essaiera de l'empêcher. Il essaiera de mettre des pressions pour que cette personne prenne une mauvaise décision. Parce qu'il ne vous laissera pas grimper dans la promotion divine sans vous tirer dessus. Il essaiera par tous les moyens. Le premier moyen qu'il a utilisé pour Joseph, c'était donc par sa famille, par ses proches, d'essayer de le détruire par ses proches. Ils échouent de le tuer parce que le frère aîné va s'y opposer. Mais en fait, Joseph a sa vie détruite d'une autre manière. Il se retrouve à nettoyer par terre. Lui, servi comme un prince à la maison. Riche, béni par l'héritage naturel. Il se retrouve à devenir esclave. Et il aurait pu se rebeller comme beaucoup de chrétiens font.
Dire, non,
c'est inacceptable. Oh pauvre de moi de faire la pity party comme on dit ici en anglais, constamment se plaindre. Je vous garantis, si avec votre bouche vous vous plaignez tout le temps, vous n'avancerez jamais. Joseph va utiliser un secret, un immense secret. Il sait que la source c'est Dieu. Et au travers de cette source, il va la laisser couler d'abord dans sa vie. Parce que vous remarquez une première chose, il est dit au verset 2, l'Éternel fut avec Joseph et celui-ci réussissait à tous égards. Qu'est-ce qu'un esclave pouvait faire dans une maison si ce n'est de bien faire son travail et surtout d'être loyal à son supérieur qui était un homme pour lequel, à la limite, il pouvait ne pas avoir de respect. Potiphar, c'était qui?
Potiphar,
un Égyptien.
Sans
aucune promesse divine. Joseph, c'était qui? Fils d'un prince. Avec toutes les promesses qu'il avait sur sa famille. Donc il pouvait regarder
Potiphar
avec méprise. En lui disant, mais t'es qui toi? Tu es mon maître parce que t'as eu de la chance, t'as pu me coincer. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Non, Joseph n'a pas fait cela. Joseph ne s'est pas rebellé. Il a servi son maître d'une façon fidèle, loyale. Il a bossé. Il a fait du mieux qu'il ait pu concernant son travail. Et comme Dieu était avec lui, parce que quand tu as une promesse, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Mais fais attention, ton attitude peut bloquer la bénédiction de Dieu qui se manifestera sur toi. Et là, Joseph ne l'a pas fait, au contraire. Il a su faire travailler les circonstances à son avantage. Et Joseph, finalement, va faire quoi? Il va d'abord réussir lui-même. Et au verset 3, il est dit, son maître, un païen, a remarqué quelque chose. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, même les païens doivent remarquer quelque chose sur vous. Mais il est étonnant, il y a tellement de chrétiens, c'est le contraire. Vous savez, il y a beaucoup de païens
hein,
qui ne veulent pas entendre parler de l'évangile parce qu'ils ont à côté d'eux des exemples lamentables. Chrétiens qui sont tristes, malheureux, remplis de religiosité, de traditions religieuses, toutes sortes de trucs bizarres, malheureux, malades, pauvres, des gens complètement enfermés sur eux-mêmes. Et le païen, il s'approche. Il dit, mais j'ai pas envie d'être comme toi. Hein. Moi, je suis mieux que toi, j'ai pas envie d'être pire. J'ai pas envie de faire marche arrière. Et il y a un certain nombre de païens qui réagissent comme ça.
Et je vais vous dire un grand secret. Ils ont raison quelque part.
Dis
à ton voisin, il a raison quelque part.
Ah, il a raison quelque part.
Ah. Eh oui, si tu rayonnes pas, tu n'attireras pas. Si tu ne rayonnes pas, tu vas repousser. Si tu marches dans le péché, tu repousses. Si tu marches dans le compromis avec les
autres,
crois-moi qu'ils ne vont pas être attirés par ton faux christianisme. C'est très clair. C'est dur de marcher dans ses convictions. Ça nous coûte de marcher dans nos convictions. Oui, ça nous coûte tout de suite. Mais ça paye plus tard. Parce que tu es en train d'amasser des choses pour le plan de Dieu dans ta vie. Par contre, si tu ne marches pas dans tes convictions, mais que tu compromets tes convictions, alors je vais te dire une chose, tu n'avanceras jamais. Au contraire, tu te retarderas. Est-ce que tu attires ou est-ce que tu repousses? C'est la question que tu dois te poser. Quel type de gens tu attires? Oh, il y a un grand sermon à faire là-dessus. Quel type de gens j'attire? Quel type de gens je repousse? Ça, c'est une question qu'on doit se poser, frère. Parce que vous voyez, Joseph, lui, il marchait avec Dieu. Le Seigneur était avec lui. Tout ce qu'il faisait réussissait. Et dans ce mot réussir, ce verbe réussir, ça a une racine commune avec le verbe prospérer. Rappelez-vous, prospérer ne veut pas dire simplement prospérer financièrement. C'est beaucoup plus que ça. Prospérer, c'est l'atmosphère réellement dans laquelle tu vis. Dans tout ce que tu fais, il y a le toucher de Dieu. C'est ça, prospérer réellement. C'est ça, réussir selon la parole de Dieu. Prospérer n'est pas seulement être béni financièrement. Bon, c'est un des aspects, on est d'accord. Mais ça, c'est beaucoup plus large que ça. Laisser la prospérité seulement au niveau des finances, c'est avoir une vision étriquée de ce que veut dire réellement la prospérité. La prospérité veut dire que ce que tu touches, tout ce que tu touches réussit. Si tout ce que tu touches ne réussit pas, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Ici, Joseph, il réussissait à tous égards, nous dit la Bible. Ça veut dire qu'il faisait marcher les principes divins pour sa propre vie. Et pourtant, c'était un homme qui ne connaissait pas grand-chose sur Dieu, finalement. Les seuls exemples qu'il avait eus, c'était son grand-père et son père qui leur avaient laissé clairement. Il faut le dire. Et surtout son arrière-grand-père qui était Abraham, qui leur avait laissé un héritage spirituel. Des expériences qui s'étaient transmises les uns par les autres sur la connaissance de Dieu. C'est ce qu'ils avaient. Mais ils n'avaient pas la parole écrite. La parole écrite n'était pas encore là. Et Joseph a su tirer parti de la connaissance qui lui ont été transmise, qui lui a été transmise au travers de sa famille. Donc, d'un seul coup, un païen, un serviteur d'idole, parce qu'en Égypte, ils servaient les idoles, ils adoraient les faux dieux, il remarque ce serviteur-là. Il a quelque chose de spécial. Il n'est pas comme beaucoup de patrons païens qui embauchent des chrétiens qui diront, ah, celui-ci, il a quelque chose de commun aux autres. Il vient en retard tous les jours. Il lit sa Bible 3 heures par jour au boulot. Il prie tout le temps quand il voit quelque chose. Mais il ne faut rien.
Vous savez qu'il y a beaucoup de patrons
qui
ne veulent même plus employer des chrétiens.
Amen.
Oh là 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 là. C'est pas populaire mon sermon. Hein.
Il
faut se poser des questions, frères et
sœurs.
Il y a beaucoup de patrons, et surtout les patrons chrétiens, qui diront
Je ne
préfère pas embaucher des chrétiens
parce
que j'ai des histoires. Et le jour où ça tourne mal, quand je veux les mettre dehors, on dit mais comment tu peux faire ça? On est frères. Oui, mais l'entreprise, elle coule à cause de toi. C'est grave, ça devrait être le contraire. Moi, quand je vois ici la bénédiction que Joseph a apportée, d'abord son maître, même pas son patron, son maître, pire, adorateur d'idoles, il remarque qu'il y a quelque chose de spécial. En toi, il y a quelqu'un. Est-ce que celui-ci est en train de se manifester à ton boulot? Mais il y a beaucoup de chrétiens, c'est, on peut dire non. On peut voir que strictement non. À part qu'ils sont en train de chanter des chansons chrétiennes au boulot, je vais vous dire une chose, vos actions parleront beaucoup plus que vos mots, et ça c'est catastrophique parmi les chrétiens. Ça parle à quelqu'un aujourd'hui. Vos actions parleront beaucoup plus que vos mots. Et si Joseph, c'était clair, ses actions parlaient d'elles-mêmes. À tel point que Potiphar, on ne sait pas combien Potiphar avait de serviteurs, mais apparemment, il avait l'air d'avoir des sourds. Peut-être qu'il avait 5, 10, 15 serviteurs, on ne sait pas. Il avait peut-être un grand terrain qui exploitait certainement, etc., etc. Mais Potiphar avait repéré une personne, celle qui marchait avec Dieu. Est-ce que ton patron te repère? Question que tu dois te poser. C'était un homme intègre, Joseph, un jeune homme intègre. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Potiphar va utiliser un principe divin qui va être simple. Il voit que la faveur de Dieu est sur un homme. Donc tout ce que cet homme fait réussit. Potiphar était quand même intelligent. Il s'est dit finalement, si je lui donne plus, tout ce que ce serviteur va toucher, ça va être béni, ça va prospérer. Et Potiphar, ça a tourné rapidement dans sa tête. Il n'était pas bête, ce gars-là. Il s'est dit quand même, quand chaque fois que je donne quelque chose à Joseph, ça marche. Ça marche très bien. Il gère ça très bien. Il
ne
vole pas. Tout marche super. Donc finalement, je vais lui donner tout à gérer. Comme ça, tout va bien marcher. Et Potiphar va utiliser en quelque, quelque chose qui est divin, alors que lui-même ne servait pas le Seigneur, pour que sa maison soit bénie. À partir du moment où tu es vraiment béni, obligatoirement, ça doit transpirer quelque part. Donc, verset 4, Joseph obtint la faveur de son maître, dont il assurait le service, et qu'il l'avait établi comme intendant sur sa maison, en lui remettant entre ses mains tout ce qui lui appartenait. Et regardez bien le verset 5, dès que Potiphar lui établit comme intendant sur sa maison, sur tout ce qui lui appartenait, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. À cause de quoi? À cause de qui? À cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tout ce qui lui appartenait, aussi bien dans la maison qu'au champ.
Ati maze uhereye igihe yamugira umubwirizwa wo mu rugo gwiwe akamuziza ibyo afise byose uhora cyaha umugisha urugo gwiwe mu Nyegiputa ku bwa Yosef umugisha uhoraho ubakubyo yarafise byose byo mu rugo n'ibyo mu ndimiro.
Mon cher ami,
Ici, il y a un grand secret.
À
partir du moment
où
tu marches dans des principes divins, tu vas obligatoirement créer une influence autour de toi. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce principe. Ce qu'ils font en général, c'est qu'ils se comportent trop comme des gens du monde,
voulant
pratiquer des principes
du monde, ce
qui fait que ça n'a pas d'influence.
Si
tu es à l'école, par exemple, quelle influence tu dois avoir? Tu
ne
dois pas avoir l'influence des yeux croisés pendant les examens.
Hein.
Ça, c'est le monde. Tu fais ça? Tu discrédites ton témoignage. Tu fais ça, tu ne seras jamais une bénédiction. Tu fais ça, tu peux prier pour que Dieu t'aide dans tes études. Résultat 0 plus 0. C'est tout ce que tu auras. Que ce soit ça, que ce soit à ton travail. Quoi que tu fasses, si tu ne sais pas utiliser l'influence divine dans ta vie, parce que tu n'as pas le caractère, tu n'influenceras pas ton environnement. Tu auras beau parler de Jésus, les gens ne viendront pas à
Christ.
Parce qu'ils verront très bien
que
ce que tu dis et ce que tu vis, ce sont deux choses différentes. Joseph ici va être une telle bénédiction dans la maison de
Potiphar
seulement dans la limite de ses responsabilités, que finalement il va avoir une promotion. Cette promotion est divine, mais pour l'instant c'est une école pour Joseph. Ce sont des choses qui sont très simples au départ. Joseph repart en bas de l'échelle alors qu'il était en haut de l'échelle. D'un seul coup il chute complètement. Mais comme il a un cœur pour Dieu, le grand secret, avoir un cœur pour Dieu, servir le Seigneur au travers de ce que tu fais. Beaucoup de gens ne veulent pas ça, n'aiment pas ça, et refusent de faire ça, et refusent d'être fidèles dans des petites choses, et pensent que Dieu va leur confier de grandes choses. Vous faites des illusions, frères et sœurs. Moi je le dis souvent, quand quelqu'un a un appel pour servir dans l'église, pour être pasteur par exemple, je dis comment quelqu'un qui n'est pas intègre déjà dans le naturel, qui n'est pas capable de produire lui-même dans le naturel, pourra-t-il faire un bon pasteur? Parce qu'un pasteur, c'est quelqu'un qui va gouverner l'église. Donc obligatoirement, il va y avoir un côté administratif, il va y avoir un côté d'organisation. On
ne
peut pas apprendre tout tant qu'on est dans le monde. Mais déjà, si tu es intègre avec ce que tu as, que tu fais, le jour où le Seigneur te met dans une position au niveau d'un ministère, il y a déjà le cœur qui est là. Et ici, Joseph était formé à une échelle qui était basse, mais son caractère commençait à être formé. Et là, il va être intègre et fidèle dans la maison de Potiphar. Dieu va lui donner une première promotion et fait de l'influence divine dans sa vie. Dieu va le mettre dans une position de leadership qui va être une petite position. Tu dois savoir une chose. Ce que Dieu t'appelle à faire, ça va refléter étape après étape dans ta vie. Il t'appelle à être là, mais dans les petites étapes. Fais attention de ne pas dérailler. Fais attention à être intègre. Travaille ton caractère alors qu'il y a de la souffrance qui est là. Travaille ton caractère dans un milieu qui est hostile. Vous savez, c'est comme par exemple, tiens, si vous apprenez à jouer de la guitare, quand tu commences à jouer de la guitare, tes doigts donc ont affaire aux cordes. Une corde, c'est quelque chose qui est en métal. Notre doigt, c'est de la jolie peau. Et croyez-moi qu'au début, quand on vous apprend à mettre vos mains, vos doigts dans certaines positions pour apprendre la guitare, eh bien, je peux vous dire qu'au bout de 5 minutes, vous avez chaud au bout de votre
doigt.
Et que si au bout d'une heure, vous remettez sur le manche de la guitare, ben je peux vous dire une chose, vous n'allez pas les garder 30 secondes,
ils
sont toujours très douloureux.
Ça
fait mal parce que votre peau est affectée, votre peau a réagi parce qu'elle a mal. Le bout de vos doigts ont mal. Et c'est tout à fait normal. Au bout de quelques jours, le mal s'étant un peu atténué, vous allez pouvoir recommencer à apprendre sur cet instrument. Mais encore une fois, là vous n'allez pas rester très longtemps parce que votre peau encore a mal. Plus vous continuez, plus vous exercez, plus vous allez voir qu'au bout de vos doigts, il va se former une peau beaucoup plus solide. Pourquoi ? Parce qu'au départ, c'est un milieu aussi.
C'est hostile.
Vos doigts ne sont pas habitués à toucher des choses métalliques, à glisser sur des cordes qui sont en métal et qui sont hostiles. Par contre, votre corps va réagir. Il va réagir. Et il va se former au bout de vos doigts une peau beaucoup plus épaisse qui petit à petit vous permettra de pouvoir mettre vos doigts et plaquer très fort le bout de vos doigts sur les cordes de la guitare, et vous n'aurez absolument aucun problème. Au bout de quelques années, vous prendrez votre guitare et vous pouvez jouer pendant des heures. Ce n'est pas le cas au début. C'est au milieu d'un monde hostile que nous nous formons et que nous nous renforçons. Mais beaucoup de gens refusent cela. C'est un manque de foi souvent, mais c'est un manque aussi de vouloir être formé dans son caractère. Dieu avait donné une grande vision à Joseph. Et je vais m'en arrêter là dans cette première partie que je voulais vous faire à propos de la destinée. Mais à la fin, alors que Joseph commence à sortir la tête de l'eau, il va se passer un événement catastrophique qui va ramener Joseph au plus bas. Et nous verrons. Le diable va essayer encore d'utiliser une stratégie dans laquelle Joseph ne va pas tomber. Et comme il ne va pas tomber, il va subir les conséquences de ses convictions. Mais nous verrons cela dans un sermon, dans un des sermons suivants que je
vais
faire. Nous allons nous lever, nous allons prier un moment. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole parce qu'elle a été écrite pour notre instruction. Elle a été écrite pour que nous puissions apprendre, que nous puissions corriger certains travers que nous avons, Seigneur. Elle nous apprend comment tu fonctionnes, Seigneur. Elle nous apprend à marcher, Seigneur, dans l'appel que tu as mis dans notre cœur et à marcher selon ce que tu veux, Seigneur. Parce que tu es un Dieu, Seigneur, qui a un appel particulier pour chacune de nos vies. Et Seigneur, je prie pour que nous puissions comprendre davantage, d'être éclairés davantage dans nos cœurs sur ce que tu veux faire dans nos vies et comment tu travailles dans nos vies pour nous amener, Seigneur, dans ta destinée, dans ce plan merveilleux, Seigneur, que tu as pour nous. Je prie pour ce peuple, Seigneur, pour qu'il puisse comprendre ses principes au travers de cet enseignement, au travers de la vie de Joseph, Seigneur. Parce que tu es un Dieu qui parle et qui veut nous aider à comprendre comment tu nous formes, comment tu nous fais aller de l'avant, Seigneur. Je te remercie pour cela.
Enseignemoi.com
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.